La météo rend la vie difficile au Bella des Gagnées ces temps-ci, ce qui entraîne des changements importants à l'horaire du navire de ravitaillement en Basse-Côte-Nord, allant même jusqu'à gâcher la fête de Noël de certains. Pour dresser un portrait de la situation et connaître les causes et la logistique entourant un pareil casse-tête, j'ai réalisé une entrevue avec André Michael, nouveau président-directeur général de Relais Nordique qui opère le Bella des Gagnées, ainsi qu'avec Frédéric Laroche, responsable des réservations pour l'entreprise. Dans un premier temps, M. Michael revient sur les modifications d'horaire qu'a connu le Bella des Gagnées dans la dernière semaine. On l'écoute.
Dans la dernière semaine, à l'aller en aval, le navire est obligé de sauter le port de Natashquan et Harrington Harbor. Au retour, le navire a été obligé de sauter le port de Saint-Augustin, la Tabatière, Tête à la Baleine et Harrington Harbor. Par la suite, il est allé à la Romaine, mais ils ont été obligés de sauter Tegasca à cause des conditions des vents du nord-est qui étaient au-delà de 45 et 50 nœuds, ce qui cause des vagues de 2, 3 et 4 mètres qui empêchent l'entrée du navire pour accoster.
C'est essentiellement des raisons météorologiques, donc.
Absolument, absolument. C'est tout. D'ailleurs, à l'aller, le navire est allé à tête à la mais en pensant que peut-être les vents allaient baisser un petit peu, il a rebroussé chemin pour faire Harrington Harbor. Il est resté en attente pendant plusieurs heures en espérant qu'il puisse rentrer, mais ça n'a pas fonctionné. Il a rebroussé chemin de nouveau pour ne pas prendre trop de retard et aller faire les autres ports.
À partir de quel vent ça devient problématique pour le bateau d'accoster à un port?
En général, c'est les vents du nord-est, à ce qu'on entend le plus souvent. Comme je vous dis, je ne suis pas encore navigateur. C'est un petit peu nouveau pour moi, je me permets de le dire. Mais les vents du nord-est nous rendent des choses quand même assez difficiles.
Mm-hmm. On a en fait une question qui va se rendre à bord du navire principalement, c'est-à-dire de concert avec l'équipe qui était à terre. Mais eux sont, ils regardent ce qui se déroule, puis la décision va toujours se prendre basée sur la météo. Donc des fois à la dernière minute, c'est rarement pris à l'avance. C'est toujours à la dernière minute.
Je vous donne un exemple. Il y a une heure de temps, le capitaine nous a contactés pour nous dire que l'entrée à Port-Meunier va être très difficile à cause des vents qui sont très élevés. Il proposait de rester en attente en DP Dynamic Positioning, donc il serait en attente de voir si les vents baissent. Par la suite, les vents ne baissaient pas. On a dit, bon, on va être obligé de passer et d'aller à cette île. Et 5 minutes avant que vous m'appeliez, il nous a contactés pour nous dire, bon, les vents ont baissé, on se dirige vers Port-Meunier, on va tenter de rentrer et d'accoster. Donc, ce n'est pas des décisions qui se prennent comme ça à l'aveuglette et facilement, parce que c'est facile de sauter un port. Ça nous cause beaucoup de complications lorsqu'on est obligé de sauter un port, parce qu'à un moment donné, il faut desservir cette communauté, que ce soit au prochain voyage, donc ça complique la logistique de tout ce qui est cargaison.
Vous savez, on est des petits villages, les choses se disent, on se parle entre nous, puis on s'était fait dire qu'au trajet aval, même à quai, là, à tête à la baleine, déjà il y avait des discussions pour qu'en amont, le bateau n'arrête pas. Donc il y a aussi des discussions à plus long terme qui ont lieu.
Oui, en fait, les discussions à plus long terme, c'est juste à titre de planification en fonction des prévisions qui nous sont données. Donc, que ce soit au niveau des prévisions météorologiques, des vents, il y a toute une analyse qui est faite par le capitaine, une analyse de risque. Alors, nous, on dit au capitaine, écoute, on va prendre ça au jour le jour, peut-être aux 6 heures, fais de l'effort que tu es capable de faire où il n'y a pas de problématique. Mm-hmm. Et lorsque tu te rapproches d'un autre port, on verra la dynamique et la possibilité. Donc, c'est possible que la discussion ait lieu parce qu'à un moment donné, il faut anticiper et se trouver des plans d'action parce qu'on travaille aussi avec la STQ. Si on doit les aviser à l'avance, écoutez, il y a des vents très élevés. Il se peut que ce soit difficile au retour de s'arrêter à tel port et tel port. Il faudrait qu'on commence à planifier comment on va servir la communauté avec les voyages alternatifs et les camionnages et toutes ces choses-là. Donc, c'est des plans de contingence qui sont discutés et non pas des plans spécifiques.
Et certainement pas, madame, pour rattraper du temps, parce que c'est quelque chose qu'on a entendu. Même nous, aujourd'hui, on a dû faire un peu de rassurer les gens qui téléphonaient. Ça ne fait pas partie des préoccupations pour nous de rattraper du temps perdu. Le but est de faire tous les arrêts à l'aller, tous les arrêts au retour. Alors, ce n'est pas une préoccupation de dire, mon Dieu, on va arrêter, on va sauver en arrêtant, en sautant trois parts, par exemple, on va gagner des heures. Ça ne fait pas partie du tout de nos préoccupations.
Ce n'est pas une option pour nous de sauter des ports pour gagner du temps. On a perdu le temps, ben on l'a perdu, mais on doit desservir tous les ports comme on se le doit, mais en fonction des conditions aussi. Les risques sont vraiment analysés de plusieurs variables.
À quel moment la décision de partir de Blanc-Sablon et d'arriver directement à La Romaine s'est prise?
Elle s'est prise entre Blanc-Sablon et Saint-Augustin, en voyant les conditions. Ben là, c'était un port à la fois.
Bon, peut-être que vous n'avez pas l'information sous la main comme ça, mais est-ce qu'on a une idée de la quantité de marchandises qui n'a pas pu être livrée à destination dans les derniers jours et le nombre de personnes qui n'ont pas pu soit embarquer ou débarquer là, à leur domicile ou en tout cas à leur point de destination?
Votre question, elle est très importante. Je n'ai pas tous les chiffres sous les yeux, mais je peux vous donner un exemple. Dans certains ports, par exemple, Blanc-Sablon, ben, ça a un impact parce qu'il y avait des gens à bord qui devaient arrêter dans d'autres ports, là. Fait que l'incident, c'est comme si ça devient en cascade. Donc, si on en avait 5, 10, ben, tantôt, ça fait 19, c'est pas long que la boule devient de plus en plus, la boule de neige devient de plus en plus grosse, là. Donc, ça touche en moyenne 5, 10, 15 personnes par arrêt là, quand on fait ça. Mais le problème, c'est comme ce qui s'est arrivé en fin de semaine, d'avoir par exemple 3 ou 4 ports d'affilée, c'est majeur. Ça a un impact majeur. Donc rapidement, c'est un plan B qui c'est aidé là, qui doit s'enclencher. Mais voilà.
C'est pas moi qui va vous apprendre que c'est Noël en fin de semaine aussi, là. On m'a dit qu'il y avait des gens qui voulaient embarquer justement sur le bateau en direction de Sept-Îles pour aller rejoindre leur famille. Combien de gens devez-vous replacer dans des avions peut-être? Comment tout ça va se faire?
En fait, le programme a été lancé dès qu'on a commencé à sauter les ports. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va initier le transport alternatif de port en port. Donc, par exemple, samedi, dimanche, on a initié ces raccompagnements-là. Donc, les gens recevaient un message d'aller se présenter. Ils avaient, je pense, c'est 36 heures, si ma mémoire est bonne, pour aller chercher un billet d'avion pour. Comme transport alternatif, c'est juste pour les résidents, on s'entend, là. Et pour des réservations qui ont été faites plus que 24 heures là, à l'avance. Donc, la majorité des gens concernés, là, de ce qu'on a vu, ont commencé à prendre leur billet d'avion. Là, on a pu voir que ça s'est enclenché, ça s'est fait. Maintenant, combien vont l'avoir vraiment fait, etc. Là, j'ai pas ces là. Mais le système fonctionne quand même bien au niveau passager. Au niveau cargo, je n'ai pas cette réponse-là parce que ce n'est pas mon département, là. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, ça s'est quand même relativement bien fait. Mais écoutez, on gère l'humain, là. Il y a des situations qui sont difficiles à prévoir. On parlait tout à l'heure d'un chien qui a été pris tout seul sur le bateau, pas de passager, qui a fallu acheminer. Vous imaginez que le propriétaire n'est pas nécessairement là. Donc, il y a plein des paramètres, là, mais on sait qu'on touche l'humain, que c'est des histoires personnelles pour chaque personne dans le bateau, peut pas accoster.
On sait que la situation n'est pas facile pour personne sur la côte, mais la situation n'est pas facile pour nous non plus lorsqu'on est obligé de prendre des décisions, sachant que ça affecte la population. Ça nous. Disons, ça ne nous met pas à l'aise non plus, parce que de toute façon, à un moment donné, il faut desservir les ports et il y a beaucoup d'enjeux dans certaines décisions qu'on prend. Mais moi, je vous dis honnêtement, toute l'équipe ici, du relais nordique, autant réservation que cargo. On prend la responsabilité très sérieusement et très à cœur.
Est-ce que l'option de ne pas retourner à Rimouski et de se concentrer de cette île à Blanc-Sablon a été évaluée? Est-ce que ça, c'est une option?
Oui, ça a été évalué, ça a été évalué 2 fois, 2 semaines consécutives. Et la dynamique et la logistique est extrêmement compliquée parce que lorsque le navire arrive à cette île, nous, de Rimouski, il y a quand même beaucoup de stocks qu'il faut envoyer à cette île par des camions. Donc, avec la quantité, ça devait demander entre 15 et 20 camions pour aller à cette île, charger le navire et ramener des conteneurs vides qui sont venus sur le trajet du retour, naturellement. Ça, on a évalué cette possibilité-là à 2 reprises et ça n'a pas été très concluant.
En terminant, je me demandais, parce que la question m'a été posée, mais est-ce que l'ancien bateau là, qui a précédé le Bella des Gagnés, le Nordic Express, avait une plus grande capacité d'accoster aux différents ports?
Non, il faut pas oublier aussi que dans les 4-5 dernières années, les conditions météorologiques ont changé énormément. Les conditions qui étaient là il y a 4-5 ans ne sont pas les mêmes maintenant. Je vous donne un exemple. Même l'année passée, à la même période, il y avait de la glace sur l'eau. Et ça facilite un petit peu la navigation parce que ça limite les vagues et ça permet d'aller plus lentement, bien sûr, mais de rentrer dans les ports. Cette année, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, ça crée des vagues assez élevées, assez intenses, qui causent la difficulté.
Je comprends. Bien, je vous remercie beaucoup, messieurs, pour le temps accordé, aujourd'hui. Là, c'est très apprécié.
Merci à vous.
Vous venez d'entendre André Michael, le président directeur général de Relais Nordique, et Frédéric Laroche, responsable des réservations. Plus tôt cette saison, le Bella des Gagnés avait aussi sauté par-dessus 3 ports durant le trajet en aval, soit Port-Meunier, Natashquan et Kegaska. Soulignons cependant que les 2 derniers villages, Natashquan et Kegaska, offrent à leurs résidents un accès à la route, un avantage que n'ont pas les 4 communautés de la Basse-Côte-Nord touchées cette semaine par le changement d'horaire du Bella des Gagnés. C'était vos informations locales présentées par la Voix du Large en collaboration avec l'initiative de journalisme local.